Eh bien, merci les amis. C'est une véritable joie d'être ici ce matin parmi vous. Et on va commencer avec une petite question. Ma question pour vous, c'est qui a regardé l'actualité cette semaine? Levez la main. Ok, beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup aussi qui préfèrent ne plus regarder l'actualité. Et franchement, je comprends. Ouais. Une de mes amies sage-femme a décidé qu'elle ne regardait plus l'actualité, mais en fait, toutes ses patientes arrivent et lui racontent. Donc ça ne marche pas toujours. Mais que vous regardiez l'actualité ou pas, c'est difficile d'y échapper. Et ce matin, peut-être que certains d'entre vous sont venus en se disant « Je vais aller à l'église, ça va me changer les idées, on va me parler d'autre chose. » Et puis, manque de peau, vous arrivez, je vous parle d'actualité. Mais ce matin, je suis là pour vous challenger. Parce qu'en réalité, mon rôle ici, ce n'est pas de vous divertir. Mon rôle, c'est de nous aider à lire l'actualité à travers le prisme de la Bible et de lire l'actualité à travers le prisme du royaume de Dieu. Parce que ça, ça transforme nos cœurs et notre manière de vivre. Et ce matin, le Seigneur ne m'a pas demandé de parler de Trump. Vous pouvez être soulagés. Mais je vais m'attaquer à un mammouth, à quelque chose de difficile. Et peut-être que pendant ce message, certains d'entre vous vont être émus. Peut-être qu'ils vont être touchés et c'est OK. On est humain, on est fait d'émotions et Dieu a créé ces émotions aussi. Et quand on est touché par quelque chose, par un sujet, ça fait de nous des gens encore plus humains. Mais j'aimerais parler de Camilla. Camilla, c'est cette adolescente de 17 ans qui s'est suicidée cette semaine parce qu'elle n'arrivait plus à survivre au harcèlement qu'elle subissait tous les jours à l'école. 1 million d'enfants et d'adolescents sont aujourd'hui confrontés au harcèlement tous les jours. Et les chiffres sont alarmants. Les tentatives de suicide chez les moins de 15 ans ont augmenté de 300% en 10 ans. 300% en 10 ans. Alors on ne peut pas mettre tout sur le dos du harcèlement. Mais ça joue quand même. Et là, ce ne sont que des enfants. Et les adultes. Et les retraités. Alors, soyons honnêtes, dans cette salle, il y a des gens parmi nous qui ont connu le harcèlement. Il y a des gens qui sont toujours victimes, au moment où je parle, de harcèlement. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce que ça existe ? La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça nous concerne ? Ou est-ce que la Bible en parle ? Parce que oui, la Bible parle de harcèlement. La vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit d'en parler à l'Église un dimanche matin à la lumière des Écritures ? Vous me donnez cette autorisation ? Oui. Alors le harcèlement, qu'est-ce que c'est ? Le harcèlement, c'est l'usage répété du pouvoir de la parole ou de la pression pour écraser, humilier, faire taire ou briser quelqu'un jusqu'à lui faire perdre sa dignité, sa sécurité, sa voix et son espérance. Ce n'est pas simplement une petite dispute ou un désaccord, c'est une oppression répétée, souvent silencieuse et banalisée. Et en réalité, tout peut devenir prétexte au harcèlement. Tu es mal habillé, tu es trop bien habillé, tu es petit, tu es grand, tu es trop riche, tu es trop pauvre. Oh là là, tu es roux, tu es trop blond, tu as un nom bizarre, tu es étranger. Tout peut être une excuse au harcèlement. Il y a 3 marqueurs bibliques du harcèlement. Le premier, c'est la répétition qui détruit. Psaume 56, 2, 3. Le roi David dit « Aie pitié de moi ». Ô Dieu, car des hommes me harcèlent sans cesse. Tout le jour, ils combattent et m'oppressent. Sans cesse. Tout le jour. Un acte isolé, les amis, ça peut blesser. Mais la répétition, ça détruit. Un pouvoir de force déséquilibré. Ecclésiaste 4.1. Ecclésiaste, c'est un espèce de philosophe de l'Antiquité dont la Bible nous parle. Et il a une façon de voir la vie qui est celle de l'Antiquité, mais qui, encore aujourd'hui, peut nous parler. Donc voilà ce que dit Ecclésiaste. « J'ai considéré toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ce n'est pas un conflit équilibré. Dans ce domaine-là, il y a un dominant et il y a un dominé. La destruction de l'âme par la parole. Psaume 64, psaume de David. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent des paroles amères comme des flèches. Dans la Bible, la violence verbale est équivalente à une violence réelle. Ce n'est pas une demi-violence, ce n'est pas moins grave qu'une violence physique, c'est une violence qui est réelle. Le harcèlement peut se produire à l'école, au travail, mais souvent, ça commence à la maison. Et on va prendre un exemple dans 1 Samuel 1. Dans 1 Samuel 1, pardon, on nous parle d'un homme qui s'appelle Elkana, qui a deux femmes, une qui s'appelle Anne et l'autre qui s'appelle Pénina. Et Anne n'a pas d'enfant, elle est stérile. Pénina, elle, au contraire, a beaucoup d'enfants. On ne va pas tout lire le passage, mais je vais vous lire juste cet extrait à partir du verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina ainsi qu'à tous ses fils et ses filles. Mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. Ce qui, à l'époque, est terrible. Hein. Une femme qui est stérile à l'époque, c'est une femme qui a pas d'avenir, dont l'avenir n'est pas assuré. C'est une honte au niveau social. Sa rivale ne cessait de la contrarier parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait dans la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Alors Elkana, qui a deux femmes, Anne, qui n'a pas d'enfant, qui est stérile, Pénina, qui lui donne de nombreux enfants. Et Pénina va utiliser la stérilité d'Anne comme une excuse pour la provoquer et l'humilier. On sent la rivalité entre les deux femmes. Pénina la provoque sans cesse. Et ce n'est pas un simple désaccord, ce n'est pas une remarque isolée, c'est répété, c'est ciblé, c'est cruel. Et soyons honnêtes, le harcèlement dans un foyer aujourd'hui ne ressemble pas forcément à des cris ou à des coups. La violence familiale, c'est dans le domaine de l'harcèlement, c'est rabaisser, humilier, insulter, dénigrer, ignorer ou culpabiliser quelqu'un de manière répétée au sein de son foyer. Et très souvent, ça ressemble à des phrases banales, des phrases presque anecdotiques, mais répétées encore et encore. T'es qu'un gros flemmard. T'es stupide ou quoi ? Non mais de toute façon, tu comprends jamais rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme toi ? Tu ferais mieux d'investir dans tes études parce que franchement, avec ton physique... La dernière, je ne l'ai pas inventée, c'est une amie qui me l'a rapportée. Sa maman lui disait ça en permanence. Et elle a grandi en pensant qu'elle était moche alors qu'elle est très belle. Et c'est une jeune femme qui n'est pas chrétienne et qui a commencé à chercher un compagnon sur les applis. Et en étant sur les applis, elle s'est rendue compte qu'on la choisissait justement parce qu'elle était jolie. Et les hommes lui disaient t'es très belle. Et c'est là qu'elle s'est dit, mais est-ce que ma mère m'aurait menti toute ma vie ? Si papa, maman dit que je suis pénible, eh bien, c'est ma référence. C'est les seules personnes en qui j'ai confiance quand je grandis. Ça veut dire que c'est vrai. Répéter tous les jours, ça brise. Le harcèlement détruit rarement par un coup violent, il détruit par la répétition. Et je voudrais faire une petite parenthèse ici sur la responsabilité d'Elkana. Donc Elkana, il sait que Pénina humilie son autre femme, Anne. Il sait que Anne, elle est profondément blessée et la situation se répète encore et encore. Et en fait, de ce point de vue, Elkana, en tant qu'adulte, mature, il aurait dû intervenir. Il aurait dû intervenir pour faire cesser la violence verbale, et c'est ce qu'on peut attendre de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne confronte pas Pénina, il ne pose pas de limites fermes, il laisse faire et il compense. Il surinvestit l'amour pour Anne. Il tente de compenser l'amour parce qu'il n'ose pas confronter une situation avec autorité. Et il lui dit « Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils ?» Elkanah, clairement, il aime Anne. Il cherche à la valoriser, mais il ne la protège pas du harcèlement. Il ne confronte pas l'injustice et il confond amour et protection. Alors, qu'est-ce que le harcèlement produit ? Tout ce qu'on voit chez Anne. Le texte nous dit que Anne pleurait, qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, elle ne mange plus. Elle est profondément affligée parce que le harcèlement, ça atteint le corps, l'âme et l'esprit. Et ça produit de la honte, la peur d'être soi-même, et on commence à porter des masques, du stress, des angoisses, des burn-out. Et surtout, le harcèlement n'enseigne jamais à fixer des limites. Quand il devient une norme à la maison, on finit par accepter d'être maltraité ailleurs. On n'a pas appris à dire non. On n'a pas appris ce qui était acceptable ou ce qui ne l'était pas. On n'a pas appris à se respecter. Et parfois, malheureusement, il y a deux choses qui se produisent. Soit on reste une victime, encore et encore, soit on devient harceleur à notre tour. Soit les deux. On est victime le jour, à l'école, au boulot, et on devient un harceleur une fois à la maison. Et la Bible nous donne aussi un autre exemple, l'exemple de Zachée. Vous vous souvenez, cet homme qui était de petite taille. Et on sait qu'à l'époque, bon, les gens ne sont pas tendres aujourd'hui, mais c'était pas mieux à l'époque, c'était même pire. Il y avait vraiment un mépris pour les gens qui étaient différents, qui avaient des handicaps. Et donc, on peut imaginer sans problème que Zachée était méprisé, rejeté pendant son enfance. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en grandissant, il devient un homme qui vole, qui écrase et qui abuse de son pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose qu'il connaît. C'est la seule arme de défense qu'il a sous la main. Et Jésus va le regarder droit dans les yeux et il va avoir compassion de lui. Ce qui n'est pas transformé et guéri par le Seigneur va se reproduire. Et si on n'est pas là pour juger ou jeter la pierre à qui que ce soit, on est là pour se serrer les coudes face au véritable ennemi. Et cet ennemi, ce n'est pas un humain. Le harcèlement, ça fait le jeu de Satan. Si le harcèlement fait autant de dégâts, c'est parce qu'il produit exactement ce que l'ennemi cherche. Le diable est menteur et le père du mensonge. Le message répété du harcèlement, c'est toujours le même. C'est toi le problème. Tu exagères. Tu mérites ce qui t'arrive. Quand le mensonge devient intérieur, l'ennemi n'a même plus besoin de s'attaquer à l'extérieur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, nous dit Jean. Et le harcèlement, ça vole la voix, la joie, l'identité. Ça détruit sans faire de bruit. Le harcèlement accuse, il installe la honte, il isole. Or, dans la Bible, Dieu crée par la parole. Et quand la voix d'une personne est étouffée, c'est l'image de Dieu elle-même qui est attaquée. Et enfin, le harcèlement normalise le mal. Quand la violence devient habituelle, on ne la nomme plus, on la tolère, et parfois même on la spiritualise. Je suis harcelée, mais il faut que je porte ma croix. Je suis harcelée, mais il faut que je baisse les chines. Je ne dis rien parce que je suis chrétien. Les amis, le harcèlement, c'est l'arme de Babylone. Nous, on appartient à un autre royaume avec des autres valeurs et d'autres lois. Alors maintenant, on va regarder la réalité en face. Et qu'est-ce que c'est la vérité ? La vérité, c'est que le Dieu de la Bible n'a jamais harcelé qui que ce soit, ni son peuple, ni les peuples étrangers, ni les individus. Et c'est important de le dire parce que certains ont pris une image de Dieu qui ressemble beaucoup trop à un harceleur, à un père fouettard. Et ça, c'est mal connaître le Dieu de la Bible. Alors soyons précis. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu reprend son peuple, et parfois avec des mots qui sont très forts. Dans Ésaïe, par exemple, il parle d'un peuple sans intelligence. Et puis ailleurs, il compare Israël à une prostituée. C'est fort, c'est dur. Mais il y a une différence fondamentale entre la correction de Dieu et le harcèlement. Dieu parle toujours à son peuple dans son ensemble. Il ne s'attaque pas à une personne isolée pour l'écraser. Et surtout, Dieu agit toujours selon un ordre très précis. Un appel clair, revenez à moi, repentez-vous. Un avertissement, vous allez beaucoup trop loin. Une grande patience. Oh, la patience de Dieu. Si on pouvait en avoir un peu plus. Et puis, il annonce les conséquences. Ensuite, il y a restauration. Appel, avertissement, patience, conséquence, restauration. C'est ce qu'on appelle l'éducation positive. On n'a rien inventé. Lisez Jérémie, lisez Ézéchiel. Dieu explique toujours pourquoi il agit. Un harceleur, lui, il n'explique rien. Il accuse, il dévalorise, il écrase. Dieu dénonce des comportements, mais ne s'acharne jamais sur une identité blessée. Il ne frappe jamais quelqu'un à terre. Il ne parle jamais durement pour se valoriser lui-même. Et surtout, Dieu ne déclenche jamais de honte toxique. La honte qui écrase, qui isole, qui détruit, ça ne vient jamais de Dieu. Et dans l'histoire de Anne, Dieu intervient. Donc Anne se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Donc elle promet de consacrer l'enfant que le Seigneur lui donnerait. Comme sa prière se prolongeait devant le Seigneur, Élie, le prêtre, observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seulement ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin !» Et là, on voit Anne qui se réveille. « Mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée et je n'ai ni bu vin ni boisson alcoolisée. Je me répandais devant le Seigneur. Ne me prends pas, moi, ta servante pour une femme sans morale. » Anne se réveille. Elle ne se laisse pas insulter. « Car c'est l'excès de ma douleur et de ma contrariété qui m'a fait parler jusqu'ici. » Élie répondit, « Va en paix que le Seigneur d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Et elle dit, « Je suis ta servante, elle le respecte, que je trouve toujours grâce à tes yeux. » Puis elle repartit, elle mangea, jusqu'ici elle ne mangeait plus, et son visage ne fut plus le même. Anne est transformée. Le Dieu qui met fin au harcèlement. Dieu amène la réalité, la justice de son royaume sur terre et il nous charge de la même responsabilité. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment Dieu intervient. Parce que moi, la façon dont je serais intervenue à ce moment-là aurait été très différente. J'aurais commencé par tirer les oreilles d'Elkana en lui disant « Oh mec, tu fais quoi là? Tu t'occupes de ta femme ou bien ?» Et puis, j'aurais attrapé Pénina entre quatre yeux. J'aurais dit « Toi, ma petite vieille, il va falloir qu'on se parle. » Ça, c'est ma façon de faire. En tout cas, c'était la mienne. Mais Dieu ne sauve pas Anne en la sortant du conflit. Tenez-vous bien. Il ne parle pas à sa place. Il ne règle pas le problème à la place d'Elkana non plus. Il donne à Anne une voix. Dieu fait émerger à travers le conflit Anne. il lui révèle son autorité spirituelle. Une autorité qu'elle avait toujours eue, mais dont elle n'avait pas conscience. Et quand elle en prend conscience, son visage est transformé. Sa stérilité sociale devient un lieu de révélation spirituelle. La Bible nous dit que Anne change avant même d'avoir été exaucée et d'avoir un enfant. Elle a retrouvé sa voix devant Dieu et devant les hommes. Et c'est elle, et pas Elkana, qui fait avancer l'histoire du salut en donnant naissance au prophète Samuel. Dieu ne se contente pas de consoler, il confronte l'injustice, il rétablit sa justice. Anne ne s'est pas défendue devant Pénina, mais est-ce que c'est vraiment le modèle biblique ultime? Notre modèle absolu pour savoir comment agir face au mal, c'est Jésus. 100% homme, 100% Dieu. C'est lui qui nous ouvre le chemin, c'est lui qui nous dit comment vivre cette vie sur terre de manière parfaite, de manière conforme à la volonté du Père. Okay ? Alors posons-nous clairement la question. Est-ce que Jésus a été harcelé ? Oui, clairement oui. Et ce pendant plus de 3 années non-stop. Par qui ? Oui, par les pharisiens, par les scribes, et pas de manière anecdotique. Jésus a été harcelé de façon répétée, publique, systématique. On le provoque sans cesse, on le piège, on déforme ses paroles, on l'accuse publiquement. Et Jésus n'a pas été harcelé parce qu'il était faible. Jésus a été harcelé parce qu'il était juste. Parce qu'il incarnait des valeurs radicalement opposées à celles de la Babylone religieuse dans lesquelles ces hommes étaient enfermés. Alors que fait Jésus face aux harceleurs? Est-ce qu'il se laisse écraser? Quel modèle nous laisse-t-il? On ne peut pas être plus chrétien que Jésus. Et la clé, c'est ici. Jésus aime ses ennemis, mais il ne collabore jamais avec le mal. Pourquoi? Parce que collaborer avec le mal, ce serait accepter ses mensonges. Alors Jésus ne se laisse pas intimider, il ne se justifie pas sans fin, il pose des limites claires. Il confronte sans devenir lui-même un harceleur. Et là, attention, point crucial. Alors que nous, on aurait tendance à se venger pour se défendre, Jésus, lui, il n'insulte pas, il nomme, il dénonce, il confronte avec fermeté ces hommes qui harcèlent et qui maltraitent sa personne, mais aussi le reste du peuple. Alors quand Jésus les regarde droit dans les yeux et leur dit « Race de vipères, sépulcre blanchi, aveugle qui conduisait des aveugles », il ne cherche pas à les humilier ou à se défouler, ce n'est pas le style de Jésus, mais il ne rend pas non plus le mal pour le mal. Ce qu'il fait, c'est qu'il décrit une réalité spirituelle. Il expose prophétiquement l'état de leur cœur pour qu'ils se repentent. Et quand Jésus dit « Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent », il ne dit jamais « Tolérez l'abus ». Il ne dit jamais « Taisez-vous face à l'injustice ». Il ne dit pas non plus « Appelez le mal bien ». L'amour biblique vise toujours la repentance et la vie, jamais la protection et le mal. C'est exactement ce que Dieu fait tout au long des Écritures. Patience envers les personnes, tolérance zéro envers l'oppression. Face au système religieux, Dieu, en la personne de Jésus, est intraitable. Alors les amis, si on dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous blessent et tendez l'autre joue ». D'ailleurs, cette histoire d'autre joue, ça a été très mal compris. Et peut-être que vous pourriez inviter Alexandre Nano vous faire un petit cours là-dessus. Mais je crois qu'il y a un sens qui est plus intéressant que celui qu'on veut bien lui donner, de simplement accepter qu'on nous frappe. Ce n'est pas tellement ça que Jésus est en train de dire. Mais lorsque Jésus dit « Aime tes ennemis, fais du bien à ceux qui te haïssent », on oublie que Jésus ne dit pas en même temps On oublie de dire que Jésus n'oublie pas de dire « Dieu s'oppose à l'abus ». Sinon, si on ne dit pas que Dieu s'oppose à l'abus, on transforme l'évangile en outil de domination. Mais comme Jésus, on peut tenir debout face à l'injustice avec la bonne attitude. Parce que aimer, c'est dire la vérité. Aimer, c'est poser des limites. Aimer, c'est dénoncer le mal, pas le mettre sous le tapis. Non seulement Dieu s'oppose à l'abus, mais il veut en guérir. Et là, je vais continuer avec une petite histoire personnelle et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça ce matin. La semaine dernière, j'animais une... pendant la semaine, je suis aussi thérapeute et je travaille avec un groupe aux États-Unis et on a des lieux de parole. On est bénévole, on a des lieux de parole où les gens viennent et ouvrent et racontent un petit peu leur passé. Et en fait, la thérapie dans laquelle je suis spécialisée, c'est tout ce qui relève des complexes traumas, donc des complexes de l'enfance. Et donc, j'ai ce monsieur qui s'appelle Fred et qui commence à prendre la parole. Et puis, c'est à mon tour d'intervenir, d'écouter ce qu'il a à dire et puis de réagir à ses confessions. Et donc, Fred, qui est un homme vraiment sportif, grand, élégant, très sympathique, très gentil, commence à parler de son enfance. Et il nous parle de l'école primaire et il nous dit à quel point il a été traumatisé par l'école primaire parce qu'on se moquait énormément de lui et il a été harcelé. Et alors que je l'écoute, ce grand bonhomme avec les larmes aux yeux, je suis vraiment touchée, vraiment touchée. Et je lui dis, écoute Fred, il faut que tu saches quelque chose. Il faut que tu saches que tout ce qui t'est arrivé, c'était pas de ta faute. Il faut que tu saches que ce qui t'est arrivé, c'était absolument injuste. Et ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est que je suis là pour t'écouter, on va avancer ensemble. Et puis, alors que je parlais comme ça avec Fred, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quelqu'un d'autre que je vais appeler Fabien pour la petite histoire. Parce que quand j'étais, moi, en 6e, 5e, il y avait ce garçon qu'on va appeler Fabien, qui était vraiment un gentil garçon et qui était harcelé en permanence. Mais vraiment, c'était la bête noire des garçons qui l'embêtait. Il trouvait toujours une excuse pour harceler ce pauvre Fabien. Et moi, je regardais la scène et franchement, plus d'une fois, j'aurais aimé intervenir et je ne l'ai pas fait. J'ai essayé d'être gentille là, plus que je pouvais avec ce gars-là, Fabien, mais je ne suis pas intervenue plus que ça. Et puis après la réunion avec le fameux Fred, j'ai passé un petit temps avec Jésus et je lui ai dit, tu vois, Seigneur, cette histoire-là de Fabien, ça fait 35 ans. Et régulièrement, je pense à ce gars-là qui a été humilié, embêté dans ma classe de 6e. Et pendant ces 35 années, plusieurs fois, ça m'est arrivé de prier pour lui. Et là, je dis vraiment, Seigneur, si j'avais l'occasion, j'aimerais pouvoir lui dire à quel point je suis désolée. À quel point ben, il y était pour rien et ce n'était pas de sa faute. Voilà ce que je dis à Jésus. Et pendant ce temps-là, dans le royaume de Dieu, c'est « Alerte, alerte !» Jess a dit qu'elle voulait s'excuser. C'était le mardi. Le dimanche matin, sur Instagram, je reçois une demande d'amis d'un certain Fabien. Alors là, je me dis « Ah, ça doit être quelqu'un de l'église, donc j'accepte la demande. » Et voilà ce que je reçois. « Bonjour Jessica, ça fait très longtemps, ça fait 35 ans. Et mon message va peut-être te sembler bizarre, ou non. Je t'ai cherché sur les réseaux sociaux parce que cette nuit, j'ai rêvé que j'étais très triste et en pleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et puis on a posé une main sur mon épaule et c'était toi qui étais venu me consoler et m'apaiser. Je fais rarement ce genre de rêve, donc je t'ai cherché et tu as accepté ma demande pendant que j'étais à l'église. Et je t'écris juste là en sortant du parking. J'ai vu que tu étais aussi très investi dans ta foi. Est-ce que c'est des grosses coïncidences? Je ne sais pas. Mais merci d'avoir accepté ma demande et j'espère que tout va bien pour toi. Je vois que tout va bien pour toi, j'en suis heureux. Tu n'as pas changé, c'est incroyable. Il est toujours aussi gentil. Hein. Prends soin de toi et de ta famille et au plaisir de pouvoir échanger avec toi. Ouais. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Le Seigneur, ce que j'ai dit à Fabien, le Seigneur voulait que je vous le dise à vous ce matin. Il veut que je vous dise, c'était pas de ta faute. Si tu as été harcelé, je veux te dire la vérité. Ce que tu as vécu ne dépendait pas de toi. Le harcèlement déplace toujours la responsabilité. Il fait porter à la victime la honte qui appartient à l'oppresseur. Mais Dieu remet les choses à leur juste place. Il enlève la honte là où elle s'est déposée. Et il rend la responsabilité à ceux qui ont abusé. Dieu ne guérit pas seulement des blessures visibles, il veut aussi transformer aussi ce qui est devenu normal à l'intérieur de nous. Une culture faite de peur, de silence, de soumission, de honte, ou parfois de violence apprise. Ce qui était toléré dans ta famille, ce qui était banalisé dans ton histoire, ce qui semblait normal, ça ne l'était pas. Et ça ne l'était pas aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus ta portion. Ce n'est pas ton héritage. Ton héritage est en Christ. L'Esprit de Dieu est en toi et sa puissance est à tes côtés. En suivant ses pas, en découvrant les valeurs de son royaume, Dieu veut te réapprendre ce qui est acceptable. Il veut te réapprendre ce qui ne l'est pas. Comment poser des limites? Comment parler sans écraser? Comment aimer sans te perdre? Dieu veut t'utiliser pour proclamer les valeurs du royaume de Dieu sur cette terre. Dieu ne veut pas te guérir seulement pour toi, pour ton intérêt et ton soulagement personnel. Il veut te guérir pour que le harcèlement s'arrête avec toi. Et aujourd'hui, il t'envoie, il m'envoie pour demander pardon si toi aussi, un jour, tu as blessé. J'ai pu demander pardon à cet ami. Je lui ai dit, tout ça, c'était pas ta faute. Et je veux te demander pardon parce que je me suis pas levée pour te défendre. Et sa réponse, moi, il était extrêmement ému. On a continué à parler et je lui ai dit que je lui présenterais Sab aussi. Mais, franchement, qui d'autre que le Seigneur peut faire des choses comme ça? Le Seigneur veut changer ta culture familiale et communautaire. Il veut t'aider à poser des limites claires quand tu vois de l'abus, à ne plus rester silencieux face à l'injustice. Pas avec la colère, pas avec la vengeance, mais avec vérité, clarté et avec une autorité restaurée, celle de ta voix. Et maintenant, ce que Jésus a fait, il continue de le faire, il t'invite, il ne force jamais. Il invite chacun à venir librement, à déposer sa honte, à recevoir la paix et à se souvenir que personne ici n'est jugé. Alors ce message t'a touché de près de loin. Si tu as été harcelé dans le passé ou si tu l'es encore aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Ce que tu as vécu ou ce que tu vis en ce moment est bien réel. Ce que tu ressens, ce sentiment profond d'injustice, c'est légitime. Tu n'es pas seul. Rien ne justifie le rejet, l'humiliation, la mise à l'écart. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour ta vie. Tes larmes dans le secret, ta colère, ta honte, ta mâchoire serrée, cette boule dans la gorge, cette angoisse dans ton ventre, Jésus les a vues et il veut t'en libérer. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas encore en mesure de pardonner et c'est ok, Dieu comprend, ça peut prendre du temps. Mais si tu peux pardonner, fais-le sans tarder. Par contre, Dieu te demande une chose, d'arrêter de porter seul ce que tu as subi. Aujourd'hui, il t'invite à prendre conscience de ta voix et de ton autorité spirituelle. Maintenant, je te propose de te guider vers une prière que tu peux répéter à voix basse ou dans ton cœur si tu le désires. Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es saint, tu es bon, tu es le Dieu qui voit et qui connaît les cœurs. Je reconnais aujourd'hui que la honte que je porte ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de ton cœur. Elle ne vient pas de ta voix. Je te remets ce que j'ai subi. Les paroles qui m'ont blessée, les humiliations, les silences, les injustices. Je ne veux plus les porter seule. Aujourd'hui, je choisis de croire que ce n'était pas de ma faute. Dans le nom de Jésus et par son autorité, je renonce au mensonge qui disait que j'étais le problème. Pardonne-moi, Seigneur. Là où la honte s'est installée en moi, pardonne-moi si j'ai cru ces mensonges. Pardonne-moi si parfois j'ai laissé la honte définir qui je suis. Et comme tu me l'enseignes, je te remets aussi ceux qui m'ont enfoncé. Je ne minimise pas ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas que c'était juste. Mais je refuse que ce qu'ils m'ont fait continue à avoir une autorité dans ma vie. Je refuse que ce qu'ils m'ont fait continue à avoir une autorité sur ma vie. Aujourd'hui, je brise tout partenariat avec l'esprit de honte. Cette honte personnelle, familiale, générationnelle. Je n'accepte plus la honte comme identité. Je n'accepte plus la honte comme héritage. J'ordonne à cette honte de quitter ma vie. Et dans le nom de Jésus, j'ordonne à l'ennemi de me rendre immédiatement tout ce qu'il m'a volé. Je reçois maintenant la vérité de Dieu, la paix de Dieu et la liberté que Christ a acquise pour moi à la croix. Car ton royaume est un royaume de justice, de paix et de restauration. Et ma vie t'appartient au siècle des siècles. Amen. Les amis, votre vie a été rachetée au plus grand prix. Elle est plus précieuse que l'or et les diamants. Ce partenariat avec la honte, il prend fin aujourd'hui. Jésus ne te condamne pas, il te relève.